Bonjour.
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 Alors, Pierre-Yves, Nathan, comme la dernière fois, c'est le retour. parce que, en fait, on est toujours dans cette période d'élection à la Chambre d'agriculture. Vous êtes bien sur Fréquence 7, sur l'émission Solidaire d'abord, différente et pas pareille, comme Fréquence 7. Et on va parler de ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire cette élection à la Chambre d'agriculture. Voilà, cette élection n'est pas anodine du tout, c'est-à-dire que les moyens qui sont alloués à la Chambre sont importants pour la façon dont on peut aider, concevoir, réaliser l'agriculture dans notre territoire.
Oui, tout à fait, oui. Et on est jusqu'à vendredi pour voter. Là, on est dans la dernière semaine de vote. Donc c'est important s'il y a des agriculteurs qui écoutent l'émission. Et effectivement, les élections syndicales agricoles ne sont pas anodines puisque le syndicat qui arrive en tête prend la présidence de la Chambre d'agriculture. Oui. Et aujourd'hui, la Chambre d'agriculture, elle a un rôle consulaire sur énormément de sujets, que ce soit sur l'installation de jeunes dans le milieu agricole, sur l'installation de projets photovoltaïques. Enfin bref, elle donne une direction dans le monde agricole.
Ouais. Et donc, il y a trois syndicats qui sont un peu là au coude à coude pour essayer d'être majoritaire à cette chambre, parce qu'en fait, celui qui arrive en tête se retrouve à rafler la mise, en fait. Hein. Et donc, il y a la FNSEA avec les jeunes agriculteurs, hein, ils marchent un peu ensemble, il me semble. Puis il y a la coordination rurale et il y a la confédération paysanne. Bon, il se trouve que, bon, moi, je suis personnellement, là, je m'engage là-dessus, je suis beaucoup plus confédération paysanne parce qu'il me semble que c'est un choix d'agriculture très. Enfin, il y a des choix de société là, hein, qui sont derrière, en fait, derrière chacun de ces syndicats. Et on en était resté d'ailleurs sur une conversation la dernière fois, Pierre-Yves, où je te disais, mais alors donc vous êtes contre les pesticides. Et alors évidemment, là, tu m'as bâché, tu m'as dit, tu es très réducteur, tu dis n'importe quoi. Enfin,
on est pour la sortie des pesticides. Par contre, nous, on ne considère pas, comme à la FNSEA, qu'il y a plusieurs agricultures. Ceux qui ont vu le débat qui a opposé les différents leaders, on va dire, des syndicats sur LCP, je crois, ont bien vu que Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, insistait toujours là-dessus en disant qu'il y avait plusieurs agricultures. Nous, non. Nous, on se dit que non, il y a plusieurs agricultures aujourd'hui, mais il ne devrait pas. Il devrait y avoir qu'une seule agriculture, et cette agriculture-là ne devrait plus utiliser de pesticides. Donc il faut qu'on y aille tous ensemble. Il n'y a pas des mauvais paysans qui vont continuer à utiliser des pesticides et des bons qui vont travailler en bio. Non, il faut convertir toute l'agriculture à l'agriculture biologique. Et pour cela, en fait, ce n'est pas un problème de technique. Technologiquement, on sait le faire. C'est un problème de marché. Donc c'est le marché qu'il faut modifier. Et c'est pour ça que c'est un engagement politique et qu'on sort, nous, de la politique agricole pour aller vers les politiques alimentaires.
Donc en fait, c'est un problème de société, quelque part.
Complètement. Hein.
Cette société presque t'impose, pour arriver à survivre, d'utiliser des pesticides.
Complètement.
Donc il y a un problème de société.
Les pesticides, c'est l'outil qui a permis à l'alimentation de créer l'agro-industrie, à ces grosses entreprises capitalistes de se créer et de tout dévorer. Donc en fait, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à en sortir, c'est parce qu'en fait, on ne pourra pas sortir des pesticides, il ne faut pas mentir aux agriculteurs, aux agricultrices, si on ne change pas le modèle alimentaire, et notamment l'accessibilité alimentaire. Donc c'est vraiment un débat de fond, et ça concerne tout le monde.
Il faut que tu développes un petit peu modèle alimentaire, accessibilité alimentaire.
Il faut que tout le monde puisse se payer une alimentation au prix où elle vaut. Alors ça va certainement aller vers le partage des richesses, que chacun puisse avoir suffisamment d'argent pour se nourrir comme il faut. Donc des salaires, des revenus mieux répartis, des outils comme une sécurité sociale qui peuvent permettre de faire contribuer les plus riches pour les plus pauvres. Donc il y a des outils qui peuvent être mis en place. Mais tant qu'on n'ira pas vers une accessibilité alimentaire mieux organisée, vers une alimentation qui soit accessible à toutes et à tous, on ne pourra pas changer le modèle agricole. Voilà. Donc ça, c'est impossible de faire autrement. Il ne faut pas mentir.
Alors là on est sur le modèle agricole. Toi, Nathan, alors tu t'installes, ça fait pas très longtemps que tu t'es installé. Pourquoi tu t'es installé? Est-ce que tu viens d'un monde agricole au départ? Est-ce que c'est simple? Tu fais du maraîchage, c'est ça, hein?
Oui, tout à fait. Je suis en maraîchage avec un ami, donc en GAEC. On est deux et on s'est installé il y a 5 ans maintenant. Donc on va attaquer notre cinquième saison et on est tous les deux ce qu'on appelle dans le milieu des néos. Donc on n'est pas du tout issus du monde agricole, nos parents n'étaient pas agriculteurs dans le coin, ce qui d'ailleurs au passage relève une problématique pour trouver des terrains qui n'est pas neutre. Mmh. Et voilà, et on a fait le choix de s'installer en agriculture biologique parce que ça correspondait un petit peu pour tous les deux à un choix de vie et un choix de valeur où on voulait se réorienter vers un métier qui faisait sens pour nous.
Donc oui, ça fait sens, mais ça fait pas fric en fait, hein, parce que voilà.
Non, c'est ça fait pas fortune, non.
ça doit être dur, non en fait.
Oui, c'est dur. Oui, c'est dur. Après, j'ai vraiment compris le sens du métier passion, dans le sens où effectivement aujourd'hui c'est pas un salaire qui me rémunère, c'est une passion, puisque ouais. Du coup on est encore là, on est encore passionné par notre métier. Mais effectivement, c'est compliqué d'en vivre. Je pense qu'il y a peu de secteurs qui sont épargnés dans l'agricole, mais tout ce qui est végétal est bien plus dur dans certains domaines, quoi.
Oui, d'accord.
Donc voilà, aujourd'hui on est en cinquième année, on est installé sur 2 hectares et on se tire pas un SMIC chacun jusqu'à présent.
Ouais, d'accord. Et c'est dur, tu bosses beaucoup, je sais pas.
Oui, après,
toute l'année, c'est réparti, c'est comment.
Ouais, alors on travaille toute l'année. Après, on a forcément une saisonnalité très forte, puisque du coup, on est quand même en Sud Ardèche avec une production un petit peu tournée sur les légumes d'été. La particularité des légumes d'hiver, c'est qu'il faut beaucoup de surface. Dès qu'on fait du chou, du poireau, etc., il faut de la surface. C'est pas quelque chose dont on dispose. Du coup,
plus de surface, pourquoi
Parce qu'un chou, ça va prendre 1 mètre carré au sol et ça va se vendre 2 euros, 2,50 euros. Ouais. Ça fait peu d'argent en mètre carré, alors qu'un plant de tomate, on va en tirer un petit peu plus. Ouais. Donc voilà, après, c'est des choix de production qui sont faits. Nous, on s'est tourné là-dessus, en maraîchage diversifié, avec une plus forte activité l'été. Donc oui, clairement, nous, notre saison, elle commence en avril pour se finir en septembre-octobre avec les derniers chantiers de récolte. Mais on produit toute l'année, et donc on produit quand même l'hiver. Après, l'hiver, c'est quand même des semaines beaucoup plus légères.
Et alors, tu parlais du désherbage en disant que ça prenait quand même une grosse partie du boulot.
Ouais, tout à fait. Bah, après, c'est le choix qu'on a fait aussi d'être en agriculture biologique. Donc là-dessus, on fait l'impasse sur tout ce qui est herbicide, etc. Et donc effectivement, le désherbage aujourd'hui, c'est variable selon les cultures, mais on va dire environ 30% du temps dédié à chaque culture.
Et c'est mécanique alors, c'est comment ?
C'est mécanique ou des fois on fignole à la main, mais ouais, nous on a fait le choix de se mécaniser, donc on a un tracteur, après avec une bineuse de précision attelée à l'arrière, et du coup voilà, donc il y en a un qui conduit le tracteur et un autre qui est à l'arrière, et on désherbe ce qu'on appelle l'interrang dans des cultures, donc sur une planche d'un mètre de large, si je fais 3 lignes de carottes, et ben il faut que je puisse désherber entre 6 lignes de carottes.
Ouais, d'accord.
Donc voilà.
Ouais. Et ça c'est bon, ça doit pas être forcément très rigolo, non ? Ça fait des heures de broum-broum.
Ça fait des heures de travail. Après, c'est pas la partie la plus, oui, effectivement, la plus rigolote. C'est pas là où on réfléchit le plus.
Ouais.
Voilà. Mais bon, il y a un petit côté méditatif que je retrouve là-dedans où on pose un peu le cerveau de côté et on désherbe.
Bon, et en tout cas, donc c'est alors pourquoi la Confédération paysanne ?
Pourquoi Confédération Paysanne ? Parce que c'est le syndicat dans lequel je me retrouvais le plus. Donc, bon, après, je ne vais pas mentir, j'ai toujours été plutôt d'affiliation de gauche, on va dire. Mais dans le programme, c'est là où je me retrouve le plus, dans la défense de l'agriculture paysanne. Puisque je pense qu'aujourd'hui, c'est important de retrouver un échelon local dans la production de notre alimentation. Mmh. Et ça, c'est indéniable quand on voit qu'en France, on importe 40% des légumes, 60% des fruits. Ça pose quand même des questions et on se dit c'est quand même étonnant qu'on soit pas capable de reproduire au niveau local et de vendre au niveau local.
Parce que là, là, on en discutait juste à l'instant, là, Pierre-Yves, hein, arriver à trouver le bon modèle pour arriver à produire des produits donc qui soient à la fois de qualité, mais qui, avec le moins possible d'intrants néfastes, on va dire, hein, pour faire simple, et puis pas rentrer non plus dans l'autre versant, là, ce que tu nous expliquais. Il y a des gens qui te parlent d'agroécologie, mais comme de Julien de Normandie, par exemple, et là on pourrait se retrouver dans un modèle qui partirait vraiment très très loin aussi du vivant en fait.
D'aller vers une agroécologie, c'est une donnée. C'est-à-dire que c'est l'ONU qui a dit il y a quelques années, il faut absolument que l'agriculture soit plus écologique parce que on utilise trop de pesticides, on détruit le vivant, et puis aussi on participe gentiment aux émissions de gaz à effet de serre parce qu'on a une agriculture très très mécanisée. Et du coup, bah, l'actuel président de la République, dans sa loi d'orientation agricole de son premier quinquennat, il a trouvé la réponse, c'est le triptyque robotique, génétique et numérique.
Ouais, d'accord.
Et en fait, pour eux, la réponse, elle est là. C'est-à-dire que c'est de se dire, bah, voilà, on va en fait avoir une agriculture qui va être très très pointue au niveau technologique et qui pourra utiliser moins de pesticides. Mais cette agriculture-là, eh bien, elle va certainement au bout d'un moment se déconnecter complètement du vivant. C'est-à-dire qu'on va aller dans une agriculture qui risque, pour certains légumes, de pousser dans des hangars, même pour de la viande, terminée par des viandes de laboratoire. On va se déconnecter complètement du vivant et on aura des résultats. Mais pour eux, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils considèrent que c'est... en fait, ce bouquin qui a été écrit par Julien de Normandie et Eric Orsonnage, j'ai mangé le nom du livre, mais c'est ce qu'il explique, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire une agriculture plus écologique, mais on doit absolument avoir une agriculture hyper technologique. Alors que nous, ce qu'on répond, c'est qu'au contraire, et on doit avoir une agriculture qui soit très proche du vivant, c'est-à-dire qui travaille avec le vivant, qui s'adapte au vivant, et surtout qui réemploie énormément de gens. Parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas mettre des gens dans les terres. Nathan, il ne travaille pas pour... Il l'a dit, il y a tout un tas de gens qui sont passionnés, et la plus grosse difficulté qu'il a, il l'a très bien expliqué, c'est pas son travail, il parle pas de son travail, c'est qu'on le met en concurrence avec un maraîcher italien ou un maraîcher d'un autre pays, ou marocain, qui va pouvoir vendre à des prix beaucoup moins chers, voire même si on fait fi des labels, avec des gens qui travaillent avec de la chimie et qui vont... il est impossible de tenir les prix. Donc en fait, le problème, il n'est pas dans la technologie, on sait produire autrement. Simplement, il faut mettre en œuvre une politique qui permette, une économie qui permette de produire autrement.
Là, on est vraiment au cœur du aussi, qu'est-ce que ça veut dire agriculture? Est-ce que c'est une production industrielle, hein? Est-ce qu'on est dans une production de produits industriels, ou est-ce qu'on est dans une dans des produits qu'on va manger, quoi, qu'on va partager avec les autres? Enfin, je sais pas. Est-ce que je vais faire bouffer le truc des OGM? Hein, on va faire bouffer le bétail avec du blé qui vient de je sais pas où, avec plein plein d'OGM dedans, et à la sortie, la viande qu'on va avoir, est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est renouvelable, enfin je sais pas comment dire. On n'est pas du tout dans un avenir là, qu'on pose.
Bah, surtout ce qu'il faut quand même bien avoir en tête, et là j'alerte les auditeurs là-dessus, c'est que quand on mange, on fait rentrer dans notre corps ce qu'on mange. C'est pas un acte anodin. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ça rentre dans notre corps. C'est ce qui va nous nourrir. C'est quand même quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, l'aliment qu'on met dans notre bouche et qui va rentrer dans notre corps, c'est pas rien. C'est quelque chose qu'on donne à notre corps. Donc cet aliment-là, jusqu'à quel point on accepte qui soit produit n'importe comment, quoi. Ouais. Et c'est quand même important d'avoir cette idée-là de ce qu'on met, parce que c'est quand même un acte assez fort de faire entrer dans son corps quelque chose, quoi.
Mais on ne sait plus très bien si le truc, c'est de manger pas cher, c'est de manger n'importe comment, c'est de manger un truc qui soit très nourrissant, mais on s'en fout des conséquences. Voilà, on ne sait plus très bien. Ou est-ce que le goût compte encore? Est-ce que ce qu'on a produit, ça vaut quelque chose ou pas? Parce que au fond, tu parlais tout à l'heure, l'investissement qu'on peut se retrouver à avoir à l'intérieur de l'exploitation agricole, à un moment, on cherche le retour sur investissement, finalement.
Oui, alors après, en fait, l'agriculture aujourd'hui, elle a eu qu'un seul objectif, c'est de faire des agriculteurs des producteurs de matières premières au plus bas prix. Donc pour tenir les prix bas, tous les Ardéchois l'ont remarqué, il suffit de promener un peu sur le plateau, on voit que les tracteurs ont grossi. Avant, on travaillait avec des petits tracteurs, puis maintenant, on peut presque plus se croiser sur la grande route. Et donc, en fait, tout ça, il a bien fallu le payer. Donc, en fait, aujourd'hui, quand on achète de l'alimentation, on achète pas seulement à manger, on achète aussi le prix du tracteur, le prix du gasoil qui a été mis dans le tracteur, le prix des outils qui sont derrière le tracteur. Donc, en fait, on est dans une agriculture qui est complètement capitaliste, c'est-à-dire qu'en fait, qui fonctionne à partir du moment où les producteurs ont des capitaux suffisamment importants. Ce qui a aussi comme inconvénient, c'est la transmissibilité de ces exploitations agricoles qui, au final, reviennent très chères. Oui. Et même sur une transmission familiale, c'est problématique, parce que s'il y a as des frères et des sœurs, il faut compenser. Hein. Mmh. Alors, et si c'est sur une transmission non familiale, ben, qui va avoir les moyens pour commencer à investir des millions d'euros pour produire et de même pas être sûr de gagner bien sa vie, quoi.
Mmh. Oui, des petites fermes sur le plateau Ardéchois sont passées complètement à la trappe maintenant parce que pour pouvoir avoir des roundballers, hein, comme on dit, hein, c'est-à-dire des roundballers, je ne sais pas comment on dit vraiment exactement, mais bon, ça veut dire avoir un plancher qui va supporter le passage du tracteur, transportant le machin qui fait 500 kilos quand même. Hein, donc il faut changer les sols, il faut changer les planchers, il faut changer l'équipement, mais à tous les niveaux. Et puis en plus, il faut avoir un chargeur, évidemment, les petits ne peuvent pas s'en sortir. Donc ça veut dire aussi qu'on se retrouve dans le paysage, par exemple, Ardéchois, à des endroits où autrefois on faisait des bottes, tu vois, des bottes qui faisaient 25 de haut, quelque chose comme ça, on peut plus les faire puisque le pré ne s'y prête pas pour pouvoir amener cette grosse artillerie qu'on peut avoir au niveau agricole avec des gros engins, ils passent pas dedans, donc le pré est laissé à volo.
Ouais.
Enfin, et donc les petites exploitations comme celles que tu essayes de faire vivre, toi, Nathan, elles ne peuvent pas arriver à tirer leur épingle du jeu, en fait, en tout cas sur le plateau.
Disons qu'on peut difficilement rivaliser. Ouais. Après, moi, je suis sur la production de légumes, donc oui, c'est compliqué. Et la seule porte de sortie qu'on voit, entre guillemets, c'est de la vente en local, quoi. Là-dessus, on n'a pas le choix. On a fait le choix du bio, donc on est sur un créneau bien spécifique déjà en soi, mais on a fait le choix d'être en local pour avoir une meilleure maîtrise des prix de vente, puisqu'effectivement, comme le disait Pierre-Yves tout à l'heure, je peux pas concurrencer un maraîcher qui va avoir 50 hectares en Sud-Espagne, quoi, c'est évident.
Ouais. Mais donc, est-ce qu'au bout du bout, on veut une agriculture qui soit complètement robotisée, ou est-ce qu'on veut une agriculture qui soit qu'avec des intrants, ou est-ce qu'on veut avoir des produits qui soient encore bouffables, quoi?
La cogestion FNSEA gouvernement répond les deux, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, ils sont contre rien. Hein. Eux, ils veulent bien les deux. C'est-à-dire qu'eux, ils considèrent qu'il faut qu'il y ait une agriculture massive, industrialisée, qui réponde aux besoins des grandes masses. Je crois que c'est à peu près 90% de la consommation qui se fait dans les grandes surfaces. Puis en effet, s'il y a des gens qui sont prêts à payer plus cher les tomates de Nathan parce qu'elles sont meilleures, ils ne sont pas contre. Ça ne leur pose pas de problème. La seule difficulté, c'est que, encore une fois, je reviens à ce que je disais, c'est que c'est ce qu'on mange. Et puis c'est surtout que pour les petits agriculteurs comme ça, qui se trouvent des niches et tout, c'est très difficile, c'est des temps de travail énormes et tout. Et puis par contre, pour les grosses exploitations, ça devient des espèces de méga entreprises. D'ailleurs, moi, je reviens à ce débat là qu'il y avait eu entre les différents responsables des syndicats. Arnaud Rousseau, ce jour-là, a été très clair et net. Il a très très bien dit que lui était pour une agriculture de marché, pour une agriculture de commerce. Et quand il nous dit qu'après ça, ils sont opposés au Mercosur,
C'est là qu'on est au bout de leur logique.
Rien, quoi.
Elle fonctionne pas, leur logique. Ils peuvent pas être pour l'un contre.
Ah, oui.
Hein, ils sont à cheval sur deux positions qui sont intenables.
Exactement.
En fait.
Ouais. Et on a l'impression quand même que cette opposition au Mercosur, c'est plus pour faire plaisir électoralement qu'une réalité économique derrière. Quoi.
Oui, bien sûr. Ouais. Et là, on se retrouve quand même avec tout un ensemble. Enfin, je sais pas. Ça fait un an quand même qu'on a les agriculteurs qui sont sortis dans la rue. Ça fait plus que ça, mais là, récemment, on a une crise manifeste. Et en tout cas, c'est pas avec cette façon de concevoir les choses d'une façon très capitaliste qui peuvent aider le petit agriculteur à s'en sortir et donc à ne pas se pendre,
ouais,
parce qu'on en est là quand même.
Oui, tout à fait. Ouais.
Hein, c'est terrible. Donc en fait, c'est mensonge à tous les tous les niveaux.
Oui,
en fait.
Carrément, oui. Ouais. Mais il l'a dit, hein, clairement, hein, ce jour ce débat, lui, il est pour cette politique. Voilà, après, il veut bien améliorer écologiquement certaines choses qui peuvent être améliorées, mais sans changer le modèle. Donc forcément, ce sera limitant, puisqu'on voit bien que le modèle, lui, fonctionne grâce, justement, à une production massive, et donc grosse production, enfin les rendements, tu sais mieux que moi, les rendements, on peut pas faire des gros rendements quand on fait quand on travaille, quand on utilise peu d'intrants, etc., quoi.
Donc en fait, des grosses entreprises, mais pas du tout au service de tous ces petits agriculteurs qui sont surtout ceux qui sont sortis dans la rue depuis un an. Ouais. Donc ces petits agriculteurs, ils se font complètement arnaquer au fond du fond parce que ceux qui sont censés les représenter, tu disais ça tout à l'heure, Nathan, est-ce que tu es représenté par le président d'Avril, quoi?
Mais oui, c'est une bonne question. Hein. Est-ce que je suis représenté par quelqu'un qui gagne, je sais pas, 20 000 euros par mois, alors que moi, je me tire pas un SMIC, ouais. Effectivement, ouais. Est-ce que dans son modèle agricole, il est à la tête d'une grosse industrie, est-ce que je me sens représenté par un agriculteur comme lui?
Oui. Et est-ce que c'est encore un agriculteur?
Est-ce que c'est encore un agriculteur? Ouais, c'est une question. Ouais.
Et en tout cas, est-ce qu'il va être sensible aux problèmes que peuvent avoir des petits agriculteurs? Non. Quelque part, lui, il va mettre en avant la solution qu'il a pu trouver pour lui et celle qui est mise en avant quelque part aussi par les décideurs, je sais pas, par les gouvernements, etc. Alors que nous, là, dans ce qu'on vit, ce qu'on partage, ce qu'on bouffe, comme tu disais,
c'est la même chose. Moi, ce que je trouve de plus fou dans ces trucs-là, c'est que ces gens-là, en fait, ils considèrent que... c'est ta position dans le marché qui te fait vivre ou pas. Et en fait, cette position dans le marché, c'est-à-dire qu'il faut que tu réussisses à être dans le marché et à être concurrentiel dans un marché. Et à côté de ça, ils se disent aussi des entrepreneurs.
Oui.
Sauf qu'en fait, je veux dire, ça veut dire quoi entreprendre? Il vaut mieux avoir une entreprise, parce que moi, je me considère quelque part comme un entrepreneur, c'est pas un gros mot, hein, je suis à mon compte et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que mon entreprise, elle fonctionne parce que justement, il y a un marché qui est sécurisé. Elle marcherait mieux, les entreprises, si les marchés étaient sécurisés. Donc on a tout intérêt à sécuriser les marchés plutôt que d'être dans des marchés de concurrence libre dans lesquels il y a des entrepreneurs. Donc je vois pas en quoi ce mec-là peut en plus se prétendre défenseur des entrepreneurs, puisqu'il leur dit allez-y, entreprenez. Par contre, si vous vous cassez la gueule, c'est parce que vous n'étiez pas bon dans les marchés. Donc en fait, on ne défend pas les entrepreneurs, c'est pas vrai. C'est un mensonge. En fait, quand ces politiques ultra-libérales disent vouloir défendre ceux qui entreprennent, non, c'est pas vrai. Ils défendent ceux qui savent marcher sur les autres, mais pas les entrepreneurs, pas ceux qui entreprennent. Il faudrait au contraire. Moi, chaque fois que je vois quelqu'un qui vient en disant j'ai un projet agricole, j'ai envie de dire vas-y, jette-toi-y. Mais il faudrait qu'il soit sûr que ça puisse marcher, quoi.
On arrive un petit peu au terme donc de l'émission. Donc votez Confédération Paysanne.
Réveillez-vous.
Si vous voulez encore savoir un minimum ce que vous êtes en train de bouffer, quand même. Ouais. Si vous voulez un minimum savoir que vous permettez à quelqu'un de vivre d'un métier magnifique. Et non pas des espèces de mecs qui foutent un petit peu des intrants, qui utilisent des grosses machines, des drones et même des tracteurs qui sont commandés par satellite. Dans quelle terre qu'on habite et dans quelle terre on va proposer à nos enfants aussi quelque part. Il y a quelque chose comme ça.
Mais c'est surtout qu'en plus, actuellement, il ne faut pas oublier que l'agriculture vivrière, c'est quand même encore elle qui fait vivre à travers le monde, c'est quand même elle qui nous nourrit, plus que l'agriculture industrielle. L'agriculture industrielle progresse sans arrêt, mais il y a beaucoup de pays où c'est encore des petits paysans, il y a des pays, encore 60% de la population qui sont des petits paysans, qui y arrivent très bien, qui ont des savoir-faire, qui ont des connaissances et tout, et c'est quelque chose qu'il faut absolument protéger, et la Confédération Paysanne fait partie de la Via Campesina, et la Via Campesina travaille dans ce sens, et on défend tous les paysans du monde entier. Je veux aussi féliciter parce qu'on a une Ardéchoise qui a fait un blog sur Mediapart d'un séjour qu'elle a mené en Palestine au mois de décembre avec une autre fille pour la Via Campesina où elle a rencontré des paysans et des paysannes palestiniennes pour les soutenir. Parce que nous, la Confédération Paysanne, on ne supporte pas toutes ces injustices. Et encore une fois, on n'est pas du tout un syndicat franco-français ni corporatiste. On est vraiment pour un autre monde dans lequel on vive bien et on ne soit pas là simplement à se tirer dans les pattes et voir des gens souffrir sans rien dire.
Mmh. Bon, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Votez Confédération Paysanne, enfin quoi.
Merci.
Merci.